Auditrice, auditeur, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 25 mai et les studios de Radio Libre en Périgord étant fermés ce lundi 25 mai, cette chronique a été enregistrée la semaine dernière. Je vous propose de commencer cette chronique en portant à votre connaissance un article publié dans le dernier numéro de L'Idée libre. C'est un article signé Hélène Hernandez, militante féministe et libertaire. Un article dans lequel Hélène Hernandez analyse le livre d'Alice Béja, Voltairine de Clare, Anarchisme, féminisme et amour libre aux éditions de l'Atelier 2025. Hélène Hernandez commence l'article par une citation d'Emma Goldman. Et Emma Goldman, parlant de Voltairine de Clare, dit « La femme anarchiste la plus douée et la plus brillante que l'Amérique n'ait jamais produite. » Voltairine de Clare, libre penseuse, anarchiste et féministe. Anarchisme, féminisme et amour libre, voilà le sous-titre du livre d'Alice Béja consacré à Voltairine de Clare, paru aux éditions de l'Atelier en 2025. C'est une biographie bien différente de celle de Paul Avrich, un American anarchist, The Life of Voltairine de Clare, publiée en 1978, la seule biographie déjà éditée et très complète sur le plan factuel. Alice Béja prend le parti pris d'établir une biographie intellectuelle de Voltairine par l'analyse de ses discours, articles, poèmes, nouvelles et de sa correspondance. Elle met en évidence ainsi les liens avec le milieu de la libre pensée, celui des défenseuses et défenseurs de l'amour libre, mais aussi des anarchistes de Philadelphie, Chicago, New York. Au travers des écrits disponibles, il s'agit d'articuler la pensée de Voltairine avec son expérience vécue. Est toujours réfléchie par les faits sociaux que sont la race, la classe et le genre. Car Voltairine revendiquait de vivre selon ses principes et ses convictions, anarchisme et féminisme, tout en étant très lucide sur ses propres contraintes et sur le peu de rigueur que montrait un bon nombre d'anarchistes pour être cohérents entre la pensée et l'action. Voltairine, libre penseuse. Comment Voltairine devient-elle anarchiste alors qu'elle a été envoyée au couvent pour son éducation? Elle est née le 17 novembre 1866 à Leslie, dans le Michigan, aux États-Unis, au sein d'une famille pauvre. Ses parents sont nés tous les deux en 1836. Sa mère, arrière Elizabeth Billings, est couturière américaine, protestante, dont la famille avait milité au sein du mouvement abolitionniste. Son père, Hector de Clare, né à Lille en France, émigre en 1854 et combat aux côtés de l'armée de l'Union pendant la guerre civile. Il obtient ainsi la nationalité américaine. Puis il devient artisan tailleur. Ses parents se marient en 1861 et auront trois filles, Marion, Adélaïde et Voltairine. Son prénom, elle le doit à son père, admirateur de Voltaire et proche du socialisme et de la libre pensée. Faute d'avoir eu un fils, il appelle sa dernière Voltairine. À la mort de Marion par noyade en 1867, la famille déménage à St. John's au Michigan et restera marquée par ce malheur. Le père reprend son métier de tailleur itinérant en 1870 à Port-Huron. Voltairine a 4 ans. Elle a appris à lire seule et elle lit le journal. Pour son premier poème conservé, elle a 6 ans. En 1879, Voltairine est envoyée sous la garde de son père, sa mère s'occupant d'Adélaïde, très malade. Son père l'envoie en 1880 au couvent de Notre-Dame-du-Lac-Huron, à Samia, en Ontario, l'occasion d'acquérir une solide instruction et une éducation qu'il ne pouvait assurer. Voltairine s'y ennuie durant 3 ans et 4 mois. Elle y fait même une fugue. Aussi, elle se met à l'étude et au piano. C'est aussi là qu'elle développera son aversion pour le catholicisme et la religion, et qu'elle se révolte contre le dogmatisme et l'obscurantisme religieux. Une expérience qui l'a fait libre penseuse. Une expérience fondatrice de l'oppression qui donne un objet à sa révolte et nourrit son désir d'émancipation. Citation du livre d'Alice Béja. En quittant le couvent diplômé en 1883, elle revient à St. John's et gagne sa vie en donnant des leçons de piano, de français et de calligraphie. Puis en 1885, elle s'en va chez une tante à Greenville, et à Grand Rapids, en 1886 au Michigan. Voltairine change son patronyme de De Clare, C-L-A-I-R-E, à De Clare, C-L-E-Y-R-E, marquant sa distance d'avec son père qu'il l'avait envoyé au couvent. C'est à Grand Rapids qu'elle fait connaissance des milieux de la libre pensée. Ce mouvement apparaît hétérogène, héritier des Lumières, critiquant les religions instituées, défendant la raison et la science, assurant la promotion de la séparation des Églises et de l'État et une éducation laïque. C'est à partir de ce qu'elle a vécu au couvent qu'elle tire les arguments contre la religion. Cette, et c'est une citation, cette méthode ayant pour objet de briser les constitutions et de faire des enfants des esclaves faibles et obéissants. Voltairine affine sa plume, commence à écrire dans The Trust Seeker et édite une des publications de la libre pensée, The Progressive Age. Elle donne des conférences pour des associations importantes comme l'Union séculière américaine et pour la Fédération américaine de la libre pensée. Elle y rencontre un milieu ouvert à la discussion. Elle y est bien accueillie et peut élaborer ses idées, les partager. Cela lui permet de découvrir notamment Chicago ou Pittsburgh. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer des suffragettes, des socialistes, des anarchistes, car les deux composantes de ni Dieu ni maître sont le plus souvent inséparables. Lors du procès des anarchistes de Haymarket, l'attentat ayant eu lieu en 1886, elle comprend que c'est surtout le procès de l'anarchie, puisque ce ne fut qu'une abominable farce. Voltairine interviendra ensuite chaque année pour commémorer la mémoire des martyrs de Chicago. La conférence « La tendance économique de la libre pensée » qu'elle prononce devant la Boston Secular Society en 1887 sera ensuite publiée dans « Liberty », le journal de Benjamin Tucker, anarchiste individualiste. Elle contribue aussi à « The Open Court » ou « The Boston Investigator », des journaux importants. Et c'est à Philadelphie qu'elle fait la connaissance de James Elliott, charpentier, lors d'une conférence de la Friendship Liberal League. Elle entame une relation avec lui, et en 1890, elle met au monde leur enfant, Harry, qu'elle laisse à son père pour repartir tenir d'autres conférences. Elle s'arrache ainsi au rôle de mère qu'elle ne veut pas jouer. Pourtant, son fils voit une immense admiration pour cette mère fragile et absente, mais intensément engagée. Il adoptera son nom de famille, Harry Leclerc, et donc il prénommera sa première fille, Voltairine. L'anarchisme sans adjectif. La libre pensée ne lui suffit plus. Voltairine veut aller plus loin sur le plan politique. Elle veut envisager les moyens pour améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière. À partir de sa prise de conscience sur le procès inique des anarchistes, elle se tourne vers les milieux socialistes puis anarchistes. Au contraire de certains anarchistes qui théorisent, Voltairine, tout au long de sa vie, insiste sur l'importance des émotions, de cet anarchisme inconscient qui habite tous les humains. Elle se recherche une vie anarchiste, fondée sur une interaction permanente entre les principes, les actions du quotidien et les événements qui surviennent, sur une attention portée aux affects, aux émotions, par laquelle elle développe un anarchisme de l'empathie. Ce sont les citations donc du livre d'Alice Béja. Elle apparaît proche des individualistes à ses débuts, avec le primat de l'individu sur la collectivité, et adopte des positions plus proches des anarchistes communistes. Elle refuse de se voir rangée dans telle sensibilité et se définit comme anarchiste tout simplement, sans étiquette économique, dit-elle. Voltairine vit à Philadelphie chichement. Ayant rencontré de jeunes migrants juifs, elle leur donne des cours d'anglais. Elle apprendra même le yiddish et traduira des textes du yiddish à l'anglais. Elle écrit, présente et organise des conférences, distribue des tracts, vend des revues, des brochures, ouvre des groupes de lecture et de discussion. Le travail quotidien de tout ou de toutes militants. Elle participe aussi à la fondation de la Ladies Liberal League avec au programme des thèmes comme sexualité, prostitution, criminalité, contraception, régulation des naissances. C'est en 1893 qu'elle rencontre Emma Goldman, bien différente et pourtant se portant mutuellement une grande estime. Le 31 août 1893, Emma Goldman doit faire un discours à Philadelphie. Mais elle est arrêtée car 10 jours auparavant, elle avait harangué une foule de chômeurs pour qu'ils et elles prennent par la force le pain que les capitalistes et riches ne veulent pas donner. Voltairine, alors, prend la parole à la place d'Emma. Elle écrit ensuite et prononce plusieurs discours pour condamner la violence des riches. Ces buveurs de sang y arrachent la chair et se repaissent des autres humains. Sur le plan international, les divers attentats anarchistes visant des chefs d'État et des industriels provoquent une féroce répression. Partout, les anarchistes sont arrêtés, emprisonnés, déportés. Les journaux sont interdits. Les lois dites scélérates en France, anti-révolution en Allemagne, ou interdisant l'immigration anarchiste aux États-Unis et criminalisant l'anarchie dans l'État de New York. La violence des attentats en cache bien d'autres, celle de la répression des mouvements sociaux par la police ou les milices patronales, comme l'agence Pinkerton, celle des conditions de travail, mais aussi la violence raciste des lynchages, notamment dans le Sud. Voltairine écrit « L'enfer du capitalisme crée des personnes désespérées et des personnes désespérées agissent par désespoir. » Pour Voltairine, l'anarchie au quotidien, c'est la liberté d'essayer. Mais sa santé reste fragile. Elle embarque pour Liverpool en 1897, premier voyage hors des États-Unis. Elle découvre l'Europe en donnant une trentaine de conférences sur 4 mois. Elle rencontre Pierre Kropotkin, Rudolf Rocker, Jean Grave, Louise Michel, puis à Paris, Sébastien Faure, et va au mur des fédérés. Voltairine est horrifiée par les récits des 28 Espagnols exilés en Angleterre, rescapés au corps mutilé par les tortures subies lors de la répression de 1896. Une bombe a explosé durant une cérémonie religieuse. Aucun coupable ne sera trouvé, mais des centaines d'anarchistes, syndicalistes, socialistes, francs-maçons sont emprisonnés dans la terrible forteresse de Montjuïc. Elle apprend qu'un jeune anarchiste italien, Michele Angiolillo, révolté par ce qu'il a entendu, quitte l'Angleterre pour l'Espagne et tue le premier ministre espagnol, Antonio Cánovas del Castillo. Michele Angiolillo sera exécuté. Voltairine lui consacre 2 poèmes. À son retour à Philadelphie, elle envoie des articles à la revue anarchiste londonienne Freedom sous l'intitulé American Dots. Voltairine n'approuve pas le geste de Xolgoz contre le président des États-Unis, William McKinley, mais comprend ce qui pousse certains à ces gestes. Mais si la violence est une forme de résistance, il s'agit de définir la théorie anarchiste de la violence. En 1902, elle est elle-même victime d'une tentative d'assassinat par un de ses anciens élèves, Hermann Elcher. Elle reçoit 3 balles et l'auteur justifie son geste par le refus de Voltairine de répondre à ses avances. Cela fait des choux gras dans la presse. Mœurs dissolues, violence et folie des anarchistes. Et dans un éditorial, on peut lire « Les anarchistes ont enfin trouvé une manière de se sauver eux-mêmes en se tuant les uns les autres ». Les appels à la solidarité pour payer les frais médicaux sont lancés dans la presse anarchiste. Emma Goldman se propose de servir d'infirmière. Voltairine refuse de porter plainte. Elle replace ce geste dans un contexte plus large, comme le firent Malatesta et Louise Michel. Devant 1 200 personnes à Philadelphie, elle présente « Crime and Punishment ». Il n'y a pas d'alternative entre une société qui tue ses membres et les membres de cette société qui la détruisent. Que la société considère ses propres erreurs, qu'elle assume sa responsabilité vis-à-vis de celles et ceux qu'elle a volés et tués, qu'elle cesse d'abord, elle-même, de commettre les crimes. Fin de citation. Elle fera un deuxième voyage en Europe en 1903, notamment à Oslo, pour prononcer cette même conférence. Elle traduira « La société mourante » de Jean Grave. Le Chicago, elle soutient les frères Magon, 1910, des anarchistes mexicains exilés aux États-Unis. La révolution mexicaine est pour elle un véritable réveil du peuple. C'est une citation. Elle s'investit aussi particulièrement dans le mouvement de l'école moderne initié par Francisco Ferrer, mais critique aussi l'entreprise éducative anarchiste, bien trop idéologique que pédagogique et libre. Un féminisme radical. Quant à son féminisme, il s'agit de radicalité d'une brûlante actualité par cet extrait de « Sex Slavery, a Lecture ». Paru dans Lucifer the Light Hearer en 1886, que la femme se demande « Pourquoi suis-je l'esclave de l'homme? Pourquoi dit-on que mon cerveau n'est pas l'égal du sien? Pourquoi mon travail n'est pas payé comme le sien? Pourquoi mon corps est contrôlé par mon mari? Pourquoi veut-il profiter de mon travail à la maison en ne me donnant en échange que ce qu'il souhaite? Pourquoi peut-il m'enlever mes enfants, les faire disparaître avant même leur naissance? » Le choc femme se pose la question. On comprend dès lors que féminisme et anarchisme sont intimement liés. Pour Voltairine, qui fréquente le milieu ouvrier en donnant des cours d'anglais, l'émancipation des femmes ne peut advenir que s'il y a indépendance matérielle, le travail pouvant être émancipateur. Mais il est indispensable de s'émanciper aussi du mariage, de la domination masculine et du rôle assigné aux femmes. L'un ne va pas sans l'autre. Elle va jusqu'à prôner la dénaturalisation des rôles sociaux par la collectivisation des tâches domestiques. Elle est autant capable d'amour libre avec ses amants qu'elle peut critiquer les liens de possession que certains anarchistes imposent dans leurs relations. Donc, pas d'attache amoureuse et sexuelle pour ne dépendre de quiconque et permettre à chacun et chacune d'être libre. Le mariage est une mauvaise action. Par ailleurs, avec Alexandre Berkman, elle engagea une camaraderie de profondeur. Elle l'aidera dans la rédaction de ses Mémoires de prison d'un anarchiste, réédité en 2020 aux éditions L'Échappée. Et lui, Alexandre, consacre en 1914 un ouvrage reprenant une partie des textes de Voltairine aux éditions Mother Earth, 2 ans après la mort de Voltairine. Emma Goldman transmet quant à elle un texte biographique de son ami publié en 1932. Voltairine meurt le 20 juin 1912. Elle est enterrée au cimetière Waldheim, repose des anarchistes de Haymarket. 2000 personnes assistent à son enterrement. L'anarchisme, une nouvelle fois, est une attention à ce qui est, et la transformation du monde ne peut être menée que si l'on s'intéresse à ce qui se passe, tout en rêvant à ce qu'il pourrait être. Ce que De Clercq montre par sa vie et ses textes, c'est l'importance de nourrir et d'accompagner la magnifique curiosité des êtres humains qui la pousse à se voir eux-mêmes, indique donc dans son livre Alice Bishop. Voilà, donc cet article est terminé. J'ai trouvé qu'il était effectivement particulièrement intéressant et on parle effectivement très rarement de Voltairine de Clercq. Deuxième sujet de cette chronique, Einstein s'opposait à la colonisation sioniste en Palestine et avait prédit la catastrophe actuelle. Ses opinions sur Israël et le sionisme ont été dissimulées et déformées pendant des décennies. Quelques semaines avant la création de l'État d'Israël, Shepard Rifkin, représentant new-yorkais du Stern Group, organisation paramilitaire sioniste fondée en Palestine mandataire, demanda que des représentants du groupe rencontrent Albert Einstein aux États-Unis, la plus grande figure juive de l'époque, selon le journaliste Stone. La réponse d'Einstein fut sans équivoque. Si une véritable et définitive catastrophe devait s'abattre sur nous en Palestine, les premiers responsables en seraient les Britanniques et les seconds, les organisations terroristes issues de nos propres rangs. Je ne veux voir personne associé à ces individus égarés et criminels. Einstein disait que sa vie était partagée entre les équations et la politique. Pourtant, parmi ses biographes, ils sont des centaines, et dans les médias traditionnels, ses nombreux écrits politiques sur Israël et le sionisme ont été au mieux passés sous silence, au pire complètement déformés, le présentant comme un partisan de l'État d'Israël. Jusqu'à ce que feu Fred Jérôme les retrouve, les fasse traduire principalement de l'allemand, et les publie dans son ouvrage « Einstein, Israel and Zionism ». Malheureusement, la première édition parue chez un éditeur new-yorkais fut tirée à un nombre très limité d'exemplaires, ne bénéficia d'aucune promotion, d'une aucune adaptation en livre numérique, et fut rapidement épuisée. C'est pourquoi Baraka Brooks en a publié une nouvelle édition avec l'accord de Jocelyn Jérôme, la veuve de l'auteur. C'est en Allemagne dans les années 1920, une époque marquée par un antisémitisme virulent, où la théorie de la relativité était qualifiée de science juive. Einstein fut attiré par le mouvement sioniste. Ce n'est qu'en 1914, à son arrivée en Allemagne, qu'il découvrit pour la première fois qu'il était juif. Une découverte qu'il attribua davantage aux gentils qu'aux juifs. Auparavant, il se considérait comme un être humain à part entière. Il se qualifiait lui-même de sioniste culturel. Mais dès 1921, Kurt Blumenfeld, un militant sioniste envoyé pour recruter Einstein, mettait en garde Chaim Weizmann, le futur président d'Israël, au sujet du grand scientifique. Einstein, comme vous le savez, n'est pas sioniste, et je vous prie de ne pas tenter de le convertir ni de l'associer à notre organisation. Einstein, qui penche pour le socialisme, se sent très concerné par la cause des travailleurs juifs. J'ai entendu dire que vous attendiez d'Einstein qu'il prononce des discours. Soyez très prudent à ce sujet. Einstein dit souvent des choses par naïveté qui nous déplaisent. Hormis la prétendue naïveté d'Einstein, Blumenfeld n'aurait pas pu mieux dire. Einstein allait constituer un obstacle constant au projet sioniste de colonisation de la Palestine et de création de l'État d'Israël jusqu'à sa mort en 1955. Voici quelques exemples des positions qu'il a prises. Ses échanges avec Chaim Weizmann, futur président d'Israël, illustrent l'importance d'Einstein pour les sionistes, mais surtout la divergence de leurs points de vue. Dans une lettre à Weizmann publiée, datée du 25 novembre 1929, il écrivait « Si nous ne sommes pas capables de trouver un moyen de coopérer sincèrement et de conclure des pactes honnêtes avec les Arabes, alors nous n'aurons rien appris au cours de nos 2000 ans de souffrance et nous méritons le sort qui nous attend. » L'idée du destin qui nous attend revient souvent. En 1929, il semble avoir déjà pressenti que l'État-nation que les sionistes rêvaient de créer sans coopération sincère ni accord honnête avec leurs voisins palestiniens deviendrait ce qu'il est aujourd'hui, l'endroit le plus dangereux au monde pour les Juifs. Quelques semaines plus tard, le 14 décembre 1929, il écrivait à Selig Brodetsky de l'Organisation sioniste de Londres « Je suis heureux que nous n'ayons aucun pouvoir. Si l'entêtement national se révèle suffisamment fort, alors nous nous entretuerons comme nous le méritons. » Par ailleurs, Léon Simon, l'un de ses premiers éditeurs et traducteurs, a écrit « Le nationalisme du professeur Einstein ne tolère aucune forme d'agressivité ni de chauvinisme. À ses yeux, la domination juive sur arabe en Palestine ou la perpétuation d'un état d'hostilité mutuelle entre les deux peuples signifierait l'échec du sionisme. » Contrairement à la grande majorité des sionistes, le soutien d'Einstein à un possible foyer national juif et non à un État ne se limitait pas à la Palestine. Son engagement n'avait rien de religieux. Certains sionistes préconisaient la création d'un tel foyer en Chine, au Pérou ou à Birobidjan en Union soviétique, mais en plein accord avec les autorités et les populations concernées. Einstein a soutenu ces mesures. Par exemple, à propos de la patrie juive de Birobidjan en Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale, il a écrit « Il ne faut pas oublier que, durant ces années, d'atroces persécutions contre le peuple juif, la Russie soviétique fut la seule grande nation à avoir sauvé des centaines de milliers de vies juives. L'initiative d'installer 30 000 orphelins de guerre juifs à Birobidjan et de leur assurer ainsi un avenir digne et heureux témoigne une fois de plus de l'humanité de la Russie envers notre peuple juif. En soutenant cette cause, nous contribuerons de manière significative au salut des derniers juifs d'Europe. » Durant les années cruciales entre la fin de la guerre et sa mort en 1955, Einstein s'est exprimé avec force sur le projet d'État juif. Invité à témoigner devant la commission d'enquête anglo-américaine sur la Palestine à Washington en janvier 1946, il répondit sans équivoque à la question de la création d'un État d'Israël par opposition à celle d'une patrie culturelle. « Je n'ai jamais été favorable à un État. » On ne peut être plus clair. En mars 1947, Isaac David, membre du groupe terroriste Irgun, dirigé par Menahem Begin, lui envoya un questionnaire auquel il répondit de manière cinglante et claire. Question. Quel est votre avis sur la création d'une Palestine nationale juive libre? Einstein. Un foyer national juif? Oui. Une Palestine nationale juive? Non. Je suis favorable à une Palestine libre et binationale à une date ultérieure, après un accord avec les Arabes. Question. Quel est votre avis sur le partage de la Palestine et les propositions de Chaim Weizmann concernant ce partage? Einstein. Je suis contre la partition. Sur la question de l'alliance entre l'impérialisme britannique et américain, Einstein ne se faisait aucune illusion. Il me semble que nos chers Américains calquent désormais leur politique étrangère sur le modèle allemand, puisqu'ils semblent avoir hérité de leur arrogance et de leur suffisance. Apparemment, ils veulent aussi prendre la relève de l'Angleterre. Ils refusent d'apprendre les uns des autres et tirent peu de leçons, même de leurs propres expériences douloureuses. Ce qui leur a été inculqué dès leur plus jeune âge s'enracine plus profondément que l'expérience et la raison. Les Anglais en sont un autre bon exemple. Leur méthode archaïque d'oppression des masses par l'instrumentalisation d'éléments sans scrupules issus de la haute société leur coûteront bientôt tout leur empire, mais ils sont incapables de changer de tactique, qu'ils soient conservateurs ou socialistes. C'était exactement la même chose chez les Allemands. Tout cela serait bien beau si ce n'était le sort tragique réservé aux personnes de bonne volonté et aux opprimés. Fin donc de la citation d'Einstein sur la question donc de la création, enfin sur la question de la partition. Et Quant aux prédécesseurs politiques du gouvernement actuel de Netanyahou, Einstein les a très vivement critiqués, ainsi que leur parti politique, notamment dans le New York Times. Lorsque Menachem Begin est venu à New York fin 1948, Einstein, Hannah Arendt et d'autres intellectuels juifs américains ont publié une lettre dénonçant sa visite et l'organisation qu'il dirigeait, la qualifiant de parti politique très proche par son organisation, ses méthodes, sa philosophie politique et son attrait social des partis nazis et fascistes. Ils ont notamment cité en exemple le massacre de 240 hommes, femmes et enfants dans le village palestinien de Deir Yassin. Einstein répéta cette accusation jusqu'à sa mort en 1955. Ces gens sont nazis dans leurs pensées et leurs actes. Quiconque tient de tels propos aujourd'hui dans les médias du grand public est immédiatement qualifié d'antisémite et mis sur liste noire. Il est de notoriété publique. À la mort de Chaim Weizmann en 1952, le premier ministre israélien proposa la présidence d'Israël à Edmer Einstein. Ce qui est moins connu en revanche, c'est la raison invoquée par Einstein pour justifier son refus. Il a dit « Je serai obligé de dire au peuple israélien des choses qu'il ne voudrait pas entendre. » On connaît encore moins la déclaration de Ben-Gourion. « Dites-moi ce que je dois faire, s'il accepte. Je n'avais pas d'autre choix que de lui proposer le poste, mais s'il accepte, nous aurons de sérieux problèmes. » Des centaines, voire des milliers de personnes sont accusées d'antisémitisme ou licenciées pour avoir osé critiquer l'État d'Israël, le qualifier d'État d'apartheid et dénoncer le génocide des Palestiniens. Qu'elles se rassurent, elles ne sont pas seules, car si Einstein était encore parmi nous, il manifesterait à leur côté. Robin Fulpot est l'éditeur de Baraka Books, qui republie donc ce livre. Toutes les citations sont extraites de la nouvelle édition enrichie d'Einstein sur Israël et le sionisme de Fred Jérôme. Nous arrivons donc au terme de cette chronique et je vous propose de nous retrouver pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller lundi prochain, toujours sur Radio Libre en Périgord. Merci.